37th Festival International de Musique Actuelle de Victoriaville, a must for safe live arts, May 17th to 23rd. Concerts, sound art installations in public spaces, experimental short films, and visual arts. For a safe event of living arts, let's meet in Victo this May. Details and tickets for the 37th FEMAV at www.femav.qc.ca. That's www.fimav.qc.ca.
The following is a previously broadcast program.
There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize
consciousness is affected?
There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize
our consciousness is affected?
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour, bienvenue sur En profondeur sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Aujourd'hui, nous allons vous parler en premier du Hub, cette semaine extraordinaire et super fondamentale que je suis ravi de vous parler. Donc, je suis ravi de vous parler et je suis ravi de vous y inviter à ma façon. Je ne suis pas partie du Hub, je ne fais pas partie de l'organisation. Mais je suis ravi que cette semaine existe. Je suis content et j'espère que vous allez participer en grand nombre. Donc, ça dit, l'équipe du Hub vous convie à sa semaine conférence virtuelle So, qui aura lieu du 3 au 9 mai prochain. Parmi les panélistes et animateurs et animatrices incroyables, vous aurez notamment la chance d'entendre Skylar Williams parler de la lutte du peuple Haudenosaunee, de regarder une conversation filmée sur l'allyship avec Ellen Gabriel et de participer à plusieurs discussions sur la convergence des luttes. Aujourd'hui, nous allons entendre Noémie qui nous parle de la semaine du Hub, donc conférence virtuelle So. Et nous allons entendre l'ensemble des capsules vidéo-audio. Ben, audio dans le sens où il est enregistré en vidéo, alors il y a de l'audio dans les vidéos. Toutes les capsules, donc, enregistrées pour leur Instagram, disponibles sur leur Instagram, présentant différentes présentations tout aussi incroyables les unes que les autres, merveilleuses. Et super importante, d'abord et avant tout, cruciale, fondamentale. On vous y invite et on vous y invite forcément, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intensité, à vous y présenter, à entendre tout ce que les différentes panélistes auront à dire. C'est une semaine vraiment, vraiment exceptionnelle et vraiment, vraiment importante. En dernier lieu des capsules du Hub, vous allez entendre la capsule d'Hélène Gabriel. Vous allez entendre l'introduction au premier événement du Hub présenté par Ellen Gabriel. C'est la seule capsule que vous entendrez en anglais. Et elle avec toute force, vous allez l'entendre en galangéaga et en anglais. Alors, on vous appelle à l'écouter attentivement. Et comme tout le reste de notre émission, d'ailleurs, qui vous fait entendre différentes voix très importantes.
Salut, je m'appelle Naomi et je suis une des organisatrices de la conférence virtuelle So du Hub de mobilisation pour la justice climatique. Pour répondre au désir grandissant des militants et des militantes du mouvement climatique d'appuyer les diverses luttes sociales, on organise cette semaine une conférence virtuelle composée d'une série d'ateliers qui explorent les liens entre la justice sociale, la décolonisation et la défense de l'environnement. C'est à travers une dizaine de conversations avec des invités qu'on tente d'outiller les participants et les participantes de la conférence afin qu'elles deviennent de meilleurs alliés et afin de bâtir un mouvement vaste, inclusif et intersectionnel. Le premier événement, c'est ce soir à 19h. C'est un panel qui s'appelle « La convergence des luttes, impératif moral et stratégique ». Si vous avez envie de vous inscrire à la conférence ou de parcourir le calendrier des événements, vous pouvez aller sur notre site web, donc lehub.ca/conférence21, ou sinon vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. J'espère vous y voir.
Salut. petite réflexion du jour. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé de racisme systémique, de la loi 21, de la brutalité policière, du colonialisme, mais on prend jamais vraiment le temps de parler des effets sur la santé mentale de ces phénomènes-là. Et à côté de ça, la santé mentale est devenue tellement un sujet important, valorisé dans la société par nos gouvernements. Et on fait jamais le lien entre le racisme qu'on vit puis les effets que ça a sur notre santé.
Aujourd'hui, je vais vous promener avec moi par la magie du virtuel et je vais vous montrer quelques plantes, quelques endroits. Je vais vous expliquer aussi les concepts du Shindinyuku ou du bain de forêt. Et comme dans ma communauté, on m'a demandé « C'est quoi tes bains de forêt que tu fais? » Puis je leur ai expliqué « Ah, oh, c'est aller dans le bois, ça? » Ouais. Mais il faut réenseigner aux gens comment aller dans le bois. Donc, si jamais vous êtes en virtuel avec moi, c'est-à-dire dans un parc ou dans une forêt ou dans un boisé, il faut vraiment vous rendre compte que le but, peut-être que c'est pas le meilleur exemple aujourd'hui, là, mais le but, c'est de pas compter les 10 000 pas. C'est pas de dire, je vais écouter un podcast, je vais répondre à mes emails. C'est vraiment d'être dans la forêt uniquement. C'est d'y être et en plus d'être en silence. Et ça va être un peu plus difficile aujourd'hui pour moi. Mais le silence, le calme, la déconnexion, une fois que vous l'atteignez, vous le savez parce que quand vous devez retourner dans votre quotidien, c'est difficile. Et ça, c'est un sentiment que je veux que le monde note. Je dis, c'est le plus difficile, c'est comme d'arrêter d'être fébrile. Une fois qu'on arrête d'être fébrile, puis qu'on est calme, puis qu'on doit retourner là-dedans, c'est lequel qui fait le plus mal? Se calmer ou retourner dans la réalité de la fébrilité? Donc, c'est pour vous dire lequel est lequel est la médecine et lequel est le mot. Fait que juste que vous puissiez le garder en tête quand vous irez explorer vous-même autour de chez vous.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais juste prendre un petit 2 minutes de votre temps pour parler de la conférence du Hub qui s'en vient vraiment très bientôt, donc du 3 au 9 mai, plus précisément des événements que j'aurai la chance d'animer. Donc, j'ai animé trois événements lors de cette conférence. Le premier, ça va être la série d'ateliers anti-oppression conçu spécifiquement pour militants, militantes en environnement. Donc, c'est vraiment, on s'attarde sur les réflexes problématiques qui sont observés dans le mouvement environnemental quote-unquote mainstream. Puis, on essaye d'analyser ensemble comment on peut sortir de ces réflexes-là. Donc, eux autres, ils vont avoir lieu, le 101 va avoir lieu le 4 mai à 19h. Puis le 102 va avoir lieu le dimanche matin, donc le 9 mai à 10h. Et on vous invite vraiment à écouter les deux. Il y a déjà quelques cohortes qui ont commencé, mais celle-ci, c'est ça, elle est ouverte à toutes les personnes qui vont s'inscrire. Et je veux prendre le reste du 2 minutes que je vous ai demandé pour vous parler un peu de l'autre événement qui va être le 5 mai à 19h également. Qui va porter sur les militantismes. Le militantisme. Pourquoi je dis les? Parce que moi souvent, quand par exemple on me demande ma biographie, parce que je vais animer un panel, peu importe, on me demande si je m'identifie comme une activiste ou une militante. Pour moi, ce sont des synonymes, mais d'ailleurs ça aussi, ça peut faire partie de la discussion. Et je pense que on assume trop souvent que ces termes-là veulent dire la même chose pour tout le monde. Puis je pense que quand on prend le temps d'analyser quelle définition qu'on peut amener à ces termes-là, ben on réalise qu'il y a beaucoup de dynamiques problématiques qu'on retrouve dans la société qui s'y trouvent aussi. Donc j'aimerais ça vous inviter à une discussion pour réfléchir à ces réflexions ensemble, puis quelles seraient certaines de ces dynamiques-là qui s'y retrouvent. Donc ça va être une discussion guidée avec des petites activités, puis des questions de relance. Mais ça va vraiment être un événement où est-ce qu'on centralise la discussion, puis ça, que ce soit... C'est sûr qu'il y aura divers médiums de communication qui seront possibles, mais c'est ça, je voulais juste que vous sachiez, dans le fond, d'avance, que si c'était un événement qui vous intéressait, de vous préparer à la discussion, puis de pas ne pas être gêné, parce que c'est vraiment, je trouve, un espace très rare de même moi, tu sais, d'ailleurs, j'ai pensé à vouloir faire un événement dans le genre parce que j'aimerais avoir plus d'espace dans ce genre-là, où est-ce que on centralise ces histoires d'implication sociale qui sont plus atypiques, où est-ce qu'on leur redonne la valeur, puis où est-ce qu'on se questionne d'ailleurs sur nos relations avec des termes qu'on utilise fréquemment, surtout dans le mouvement. Donc, si vous voulez rêver avec moi de qu'est-ce qu'un monde libre et quelles sont les formes d'implication sociale qui méritent d'être davantage louangées, bien, venez discuter avec moi le 5 mai à 19h. Là, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, mais oui, si je m'abuse, c'est le 5 mai à 19h. Pour cet atelier-ci, précisément. Et là, j'ai déjà menti, ça fait plus que 10 minutes, donc je vais vous laisser là-dessus. Passez une belle semaine et j'espère que vous serez des nôtres.
Bonjour, je m'appelle Ashley Torres, je suis une étudiante qui lutte pour la justice climatique. Je suis super contente de venir vous parler d'un événement qui organise le Hub le 6 mai à 19h, qui s'appelle « Évoluer et s'épanouir en activisme, histoire et parcours personnel ». Nos invités, c'est Isabelle Héritier, Louis Ramirez et moi-même. On va parler et discuter sur un sujet qui est super intéressant, qui est comment on évolue en tant qu'activiste, de quelle façon ce parcours a eu lieu. On va raconter nos histoires, puis en relation avec vraiment l'intersectionnalité, de quelle façon on a développé ces perspectives intersectionnelles, qu'on travaille toujours dessus. Donc, je vous invite à nous joindre le 6 mai à 19h. Ça va être super cool.
Katsitsa kosne yujatsitano kanyahtu, kanyakahaka tuotetano kanasata kanagere.
I appreciate the opportunity to speak to you all today because the land acknowledgements that have been going on were a great idea. However, it has not changed the situation of land dispossession and land theft. For Indigenous peoples, it has to go beyond a land acknowledgement. Montreal, or we call it Jochaake, where the people split, has always been Haudenosaunee Iroquois territory. There are many other nations, of course, that have come, and it was most likely a place where nations traded amongst each other because of its location. But a land acknowledgement cannot be shallow. A land acknowledgement must be done within a decolonial framework so that when people acknowledge the land, they're acknowledging the people of that land and their Indigenous laws, their Indigenous customs, and their values. Otherwise, you're just going through the motions, and for us, it's like a blip in your discussion. And so the discussions where there are land acknowledgements need to also continue right after those land acknowledgements of what exactly that means. Being an ally means you understand the people of that land. You are aware and have been educated about Canada's colonial history and what the devastating effects have been of assimilation policies and laws. Land is part of who we are as Indigenous people, Ukwahuma people, we say in my language. And it's our language is based upon the land and its use. We are still fighting colonialism. We are still fighting land dispossession, which is why land acknowledgements, while appreciated, must go deeper than just a token gesture. Our laws under our constitution is an acknowledgement of all the life forces that keep us alive. So we say the words said before all else when we start any meetings, and we close that way. And so it acknowledges the waters, everything that's in the earth that you can think of, the trees, the birds, the thunderers, the medicines, everything, to the skies with the sun, the moon, the stars, to acknowledge that we're all related, and that in our discussions we have to be mindful of the decisions that we are going to make, not just for the people, but for all those life forces and how it's going to affect them. And we have to close that way. If we don't do that, then any decisions that we're making, which are casual, are not obligatory to anybody in that discussion. Using our laws, they are obligatory. The people sign off on it and come together in one mind. We say, Aska atitawatwe nuni. We wrap our minds, we bring our minds together. And that is part of our traditional ways and our traditional laws and our decision-making process. For the Haudenosaunee people, the women hold title to the land. Colonization took that away, took that authority and that ability to protect the land away from us. So when we say land acknowledgments, or when I hear land acknowledgments, you're talking directly to the women of our nation. And you're talking to the people as well, but the women who hold that responsibility and the men to protect the people who are protecting the land. So it's extremely important that people understand this is the decolonial framework that I'm talking about when we're talking about changing the way people do land acknowledgments and to be aware of how our customs and our laws go.
Pour retrouver toutes les informations concernant le Hub, vous pouvez aller sur Instagram à le Hub, Justice sociale, Justice climatique et solidarité. Vous pouvez aussi aller sur leur Facebook à le Hub, en un mot. Tout collé, le Hub. La première publication, celle qui est en haut, dit « L'équipe du Hub vous convie à sa conférence virtuelle So. Trois sauts, comme dans saut, solidarité, qui aura lieu du 3 au 9 mai prochain. Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. En second lieu, vous allez entendre donc, le Verger au complet épisode 4, Embolition du système carcéral, entrevue avec Alain Hudson. Dans le courriel envoyé par la Convergence des luttes anticapitalistes, ça dit « Visitez le site de la Convergence des luttes anticapitalistes pour écouter le quatrième épisode de notre série de podcasts nommé Le Verger au complet. Le Verger au complet vise la diffusion d'informations relatives à l'abolition de la police et des prisons, mais proposera aussi des épisodes portant sur des thématiques plus précises telles que la justice transformatrice, les prisons des migrants et migrantes, la criminalisation de la dissidence et plusieurs autres. » Dans ce quatrième épisode au sujet de l'abolition du système carcéral, nous vous présentons une entrevue avec Alain Hudson, qui milite en solidarité avec les prisonniers et prisonnières depuis plusieurs années. Vous aimez cet épisode du Verger au complet et souhaitez le partager? Toute diffusion sera extrêmement appréciée. Vous trouverez le podcast ici à https://www.clac.ca /MONTREAL.net /FR/NODE /774. Bon, si vous avez tout oublié ça, cherchez le Verger au complet, épisode 4, abolition du système carcéral, entrevue avec Alain Hudson, convergence des luttes anticapitalistes sur un site de recherche et vous allez trouver.
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pommes pourries quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauchaké, Montréal, en terre autochtone non cédée. nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet. Comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, les prisons n'ont pas toujours existé. Leur apparition s'inscrit dans un processus de gestion des corps et des vies humaines qui accompagne la naissance du capitalisme. Les prisons comme telles font bien sûr partie d'un plus grand système carcéral, très développé dans notre société, qui sert pas seulement à punir une personne qui a commis un geste considéré illégal, mais permet aussi à l'État d'exercer un contrôle social. Les répercussions de ce système sont néfastes pour les personnes emprisonnées et leur communauté, aussi bien que pour le reste d'entre nous qui vivons en connaissant les conséquences de ce qu'ils représentent. Pour en apprendre plus, nous vous présentons une entrevue avec Ellen Hudson. Depuis une vingtaine d'années, Ellen Hudson milite en solidarité avec des prisonnières et prisonniers. Elle habite sur le territoire Kanien-Kahaka, non cédé, aussi connu sous le nom de Montréal, mais travaille principalement avec des prisonniers politiques aux États-Unis. Elle s'identifie comme une femme noire, queer et anarchiste. Au niveau politique et social, qu'est-ce que c'est la prison?
Bien, la prison, tout d'abord, pour moi, l'important est de mentionner que la prison, c'est pas juste un endroit qui existe, c'est une institution sociale. C'est-à-dire, il y a une fonction que la prison ça sert à quelque chose dans notre société et puis c'est lié avec toute autre institution dans notre société. Donc, c'est clair que c'est lié au gouvernement, à la police, mais il faut aussi être conscient que c'est lié à l'économie, à le système d'éducation, les frontières, tout ce qui fait fonctionner la société, il y a un lien avec la prison. Et c'est quoi la fonction de prison? Pour moi, à mon analyse, c'est un contrôle social, spécifiquement quand la société, le capitalisme, l'État cause la précarité, il faut faire quelque chose avec ces gens précaires et il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des pouvoirs, que l'État a les pouvoirs sur eux. Alors, c'est ça la fonction de prison, d'avoir un endroit pour garder comme un surplus de personnes, de travailleurs, et pour envoyer le message clairement que la coercion, il est là comme menace à la population, à la peuple.
Peux-tu nous dresser un portrait de la population carcérale au Canada? Qui se retrouvent en prison et quels sont les liens entre leur incarcération et les autres formes d'oppression auxquelles ces personnes font face?
Mais comme j'ai dit, la prison est là pour envoyer un message et pour contrôler des gens. Alors, ça se prend pas que les gens marginalisés, les gens opprimés se retrouvent en prison en grand nombre. Donc, au cours des dernières décennies, les dernières 4 décennies, on a vu une augmentation en général en le nombre de personnes en prison dans le monde occidental, c'est-à-dire des pays comme Canada, les États-Unis, en Europe, etc. Au Canada, on n'a pas vu augmenter notre population incarcérée, mais on a vu augmenter les personnes opprimées. Pour donner un exemple, en 2001, le pourcentage de prisonniers dans les prisons canadiennes fédérales, où se retrouve tout le monde qui purge une peine de plus que deux ans ou plus, le taux de personnes autochtones était juste en bas de 20%. Là, c'est en haut de 30%, juste en haut de 30%, 30.5%. Quand on regarde chez les femmes autochtones, c'est plus que 40%. Et avec les jeunes, les personnes jeunes, n'importe leur genre, c'est aussi élevé comparé à cette 30% qui est déjà élevé par rapport à la 5% de personnes au Canada, dans l'État de Canada, qui sont autochtones. Donc, c'est une grande surincarcération. Et ça, on voit aussi chez les personnes noires. Donc, ça, on parle un peu de racisation de des prisonniers et prisonnières, mais aussi quand on regarde tout ce qui est l'oppression, la pauvreté, des problèmes sentimentaux, l'analphabétisme, tout ça, c'est surreprésenté en prison. Donc, on voit clairement que les personnes imprimées sont les personnes qui se retrouvent en grand nombre derrière les barreaux.
Touche-t-elle la vie des gens qui ne sont pas elles-mêmes emprisonnés?
Moi, c'est très clair que la prison, ça touche la personne emprisonnée, mais ça touche des communautés, ça affecte des communautés. Quand quelqu'un est en prison, cette personne laisse leur famille, laisse leur job qui est souvent enraciné dans leur communauté. Mettons, par exemple, une communauté noire comme Montréal-Nord, juste pour prendre un exemple. Mais ça, je vais parler du État canadien, mais la même dynamique se reproduit dans tous les pays occidentaux. Donc, quand on enlève un grand nombre, tout le monde qui peut travailler, tout le monde qui peut être tête d'une famille, tout le monde qui a les rôles dans une communauté où ils transmettent des savoirs culturels, toute cette sorte de choses qui peut être un peu le leadership, pour le dire comme ça, d'une communauté. Si ces gens sont derrière les barreaux, c'est pas juste eux qui sont affectés. C'est sûr que c'est eux qui sont affectés très très concrètement, mais c'est aussi comme une cercle vicieux qui se produise, dans le sens que les jeunes, les enfants dans les communautés où beaucoup d'adultes sont emprisonnés vont voir leur chance d'être emprisonnés aussi dans le futur augmenter.
Donc, en plus de cibler et d'affecter les populations déjà les plus opprimées et les moins privilégiées de la société, le système carcéral perpétue ces oppressions. Au lieu de régler quoi que ce soit, la prison accentue les causes de la soi-disant criminalité. Pour toi, l'abolition des prisons est une réponse à ces injustices. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'abolitionnisme?
Mais l'abolitionnisme, c'est clair par son nom, c'est que il a pour but d'abolir la prison, de faire en sorte que on va avoir une société sans prison. Quand je mentionne ça, souvent j'ai une réaction que c'est une idée un peu ridicule ou un peu utopiste, dans le sens que qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce qu'on appelle des crimes? c'est-à-dire des méfaits entre des personnes, blesse quelqu'un d'autre ou prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut régler ça sans prison? Ben, honnêtement, j'ai pas de réponse très, très simple et très concrète à ça. Mais juste pour dire qu'il y a des sociétés où ça se fait pas de façon, comment on règle ça dans notre société, c'est-à-dire avec des prisons. L'autre chose pour mentionner est que si on veut régler des problèmes entre les gens en dedans des communautés, c'est très, très différent d'y impliquer l'État. Parce que avec la notion que des crimes qu'on a avec les cours, la police, la prison, ce qui vient avec est que toute l'oppression que je viens de mentionner, mais aussi que si ce n'est plus conceptualisé comme un méfait contre une autre personne, mais plutôt un méfait contre l'État. Donc, mettons que moi, je prends votre bicyclette, je prends ton bicyclette à toi. Avec la notion des cours, des prisons, des crimes, c'est pas entre moi et toi, c'est entre moi et l'État. Donc, ça devient complètement autre chose. Avec l'abolition des prisons, on veut toujours avoir une façon de régler ça entre moi et toi, entre tout le monde qui est affecté, mais ce n'est plus une affaire d'État, ce n'est plus une méfaite contre l'État. Et en plus de ça, au-delà de ça, ce n'est plus question de punir. Parce que ça, c'est l'autre aspect de l'abolitionnisme et c'est axé sur des solutions, c'est axé sur ce qu'on appelle en anglais restorative justice. Il y a sûrement un mot français pour ça, mais ça m'échappe. C'est-à-dire de retourner à un état, pas un état comme l'état, mais comme une situation où tout le monde est correct, où on a guéri l'injustice qui s'est produite. L'autre chose que j'aimerais mentionner avec l'abolitionnisme est que c'est à la fois pour faire en sorte qu'il y a plus de prison et en même temps pour essayer de bâtir les alternatives. Donc il y a une lutte anti-carcérale, mais il y a aussi une lutte pour une vision de notre société.
Restorative justice, en français la justice réparatrice, sert, en bref, à trouver un moyen pour la personne qui a causé un tort à une ou des personnes de réparer le mal qu'elle a causé, selon les besoins et les demandes de la ou des victimes. Au soi-disant Canada, le gouvernement fédéral s'est approprié le terme justice réparatrice en lui donnant une place dans son système carcéral punitif. Aujourd'hui, certaines préfèrent donc parler de justice transformatrice, soit une forme de justice refusant toute collaboration avec l'État et misant sur la transformation des mentalités, notamment par le biais de processus entre les victimes/survivantes et les personnes ayant causé du tort. Nous allons revenir sur ces notions dans un des prochains épisodes du Verger au complet, qui portera plus spécifiquement sur les formes de justice alternative. Gens qui voudraient voir un monde sans prison, il y en a qui sont critiques du terme abolitionnisme. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que le mot abolition veut dire exactement pour toi?
Mais il y a deux aspects de ça. D'abord, comme mon premier point sera de dire que tout à fait, on peut avoir une critique très réelle dans le sens que d'abolir la prison, ça veut dire quoi? C'est une question tout à fait pertinent parce que on peut pas vraiment abolir une institution de la société juste le faire disparaître. C'est sûr que si c'est lié à la suprématie blanc, le capitalisme, le patriarcat, l'homophobie, toutes sortes de choses, on peut pas juste faire l'abolir. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent abolitionnistes qui ont pas une critique de toutes ces autres institutions que je viens de mentionner. Donc ça, pour moi, c'est pas très réaliste de dire on va juste abolir la prison et le reste de la société, ça va rester comme il est. Pour moi, c'est pas réaliste et c'est pas juste non plus. De l'autre côté, le terme abolitionnisme, ça fait un lien direct à l'abolitionnisme de l'esclavage. Et il y a beaucoup de gens dans les mouvements abolitionnistes qui font ces liens très fortement dans le sens que la prison est une institution profondément suprémaciste blanc, profondément coloniale. Alors, quand il y avait le mouvement abolitionniste de l'esclavage, cet mouvement a pas tout à fait réussi. On a toujours l'esclavage a légué la suprématie blanc. Et la suprématie blanc, c'est un des fondements de l'institution de prison. Donc, pour beaucoup de gens qui se disent abolitionnistes, c'est que c'est le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. C'est une continuation de le mouvement abolitionniste qui existait il y avait un peu plus d'un siècle. Et pour moi, en tant de personnes noires, de personnes antiracistes, c'est important de faire ce lien. Donc, c'est pour ça, en partie, que je me dis abolitionniste et pas juste une personne anti-prison. L'autre chose est qu'il y a l'abolitionnisme du prison, il y a aussi l'abolitionnisme carcéral. Et pour moi, l'abolitionnisme carcéral est plus pertinent, c'est plus large dans le sens que il y a aussi des autres instances carcérales, il y a aussi des autres façons d'enfermer des gens. C'est-à-dire les choses qui se disent les alternatives à prison, donc mettons des bracelets GPS où des gens sont confinés chez eux, mais toujours surveillés par l'État et pas capables, pas permis de partir de chez eux. Il y a des frontières, il y a des hôpitaux psychiatriques fermés. Et là, je dis hôpitaux dans des guillemets. C'est pas des vrais hôpitaux pour moi. Il y a personne qui va se guérir là. Alors, c'est ça, l'abolitionnisme carcéral. Donc, c'est-à-dire l'abolitionnisme du prison, de toute autre instance carcérale et avec un lien historique à l'abolitionnisme de l'esclavage.
Et qu'est-ce qu'il en est du féminisme carcéral?
En fait, en parlant, je me suis rendu compte que dans une des autres questions, j'aurais voulu parler un peu plus de la patriarcat spécifiquement, parce que une partie de discours des prisons très centrale est que la prison est là pour nous garder en sécurité, de nous protéger des personnes qui sont emprisonnées. Et parmi les luttes radicaux, les luttes révolutionnaires, je pense qu'il y a dans tous les mouvements des éléments réformistes qui ont pour réponse à leur oppression qu'il faut punir les gens et entre autres avec la prison, mais surtout en les luttes anti-patriarcat et surtout en les luttes contre la violence contre les femmes, il y a des éléments qui exigent les peines plus longues, les lois plus sévères. Il y a un nom pour ça, c'est le féminisme carcéral. Et là, dans les années récentes, ça me donne beaucoup d'espoir de voir un dialogue en dedans des mouvements féministes comme quoi le féminisme carcéral, c'est un grand problème et c'est pas une solution à la sexisme de enfermer les gens parce que ça améliore pas la sécurité des femmes. Et on voit avec les lois plus sévères que c'est souvent les femmes qui se retrouvent derrière le barreau pour se défendre. Donc voilà, c'est ça que je voudrais ajouter, parce que c'est souvent une question que des gens ont. Comment est-ce qu'on va être en sécurité? Comment est-ce qu'on va se protéger? Et c'est comme une trap, on dit en anglais, de penser que la prison va nous protéger et de faire recours à ça comme revendication dans nos autres mouvements.
Je suis pauvre mec, je suis au clan. À ma seule pied des mecs dans mon gauche. Je rentre pas dans le chaos, je suis magique. Oh gars, je t'aimerais peu faire qu'à propos des commentaires. Si tu fais que la popote t'es un menteur, commence donc par qui le cut dans ton mental. Le caca que t'entends, c'est beau que j'ai fait quand je vais tâter ton opinion. Ah, c'est de fuck, c'est pas que tu parles, c'est pas pareil. Tes copains sont d'accord, c'est doit être correct. Qui se parle pour visiter, tu vas classer les tuyaux, je prends le sérieux, no thanks, sorry. Ben du courage derrière ton écran. Sans entourage, ça ne sert à mon grand. J'ai tout le travail quand je démolis ta bouche. J'ai dit merci, maman, reste poli. J'ai dit que Facebook est pas fait. Qui est pas sûr, pas le temps à me perdre dans des débats stylés. J'pense à te faire des choses terribles comme Nick qui aime dans Tocqueville. C'est mon oui, fait chaud depuis que je rentre dans la pièce. C'est mon info, un show. Tu pries des bonnes places, fin, il se passe quelque chose comme Bois d'enfer, j'ai hit the fam, reste tout en place. Pas de mic, j'trouve que j'l'ai pas t'écouter. Chance humaine, ce que j'me rappelle t'éclater. J'm'en calme, c'est comment t'es plus tôt, t'es café. T'as mes voyages, what else, un petit jet à côté. J'sais pas pourquoi j'suis aussi peur. Un gentleman, t'es parce que j'ai pas peur des araignées. J'suis officiellement donné avec les gars moyens. Next time, si c'est France, je fais payer. Trop vieux pour attendre après un putain. C'est ce que je suis, j'suis en train de migrer un putain de tic. J'ai oublié, enfin genre, on pourrait se revoir. Manquer d'étiquette, one way ticket. J'pense avec détermination dans un cul-de-sac. Quand I've done, j'suis strong, j'suis pas cul-sac. J'peux pas gérer, touche pas, j'cherche tout de fort. J'suis mis casser l'ambiance et j'écoute fort. J'suis pas cette défense de ceux que ça pousse fort. Pour ceux que t'as tapé, j'suis petit goût de fort. T'as même mis chez fond du bac, t'as un clown. Ah, j'commence même pas avec toi, j'suis laisse tout de fort. J'crache feu, j'ai des pensées toxiques. J'veux pas crash and burn, j'élimine les toxines. J'colle sur les chocs, mon flow, chaque j'ai mon unboil, jazz comme Jack, meeting, mes devices, t'as ton, j'monte un doigt. La base au fond, on monte sur le toit. J'suis chippé dans le fond, sur des chemins étroits. T'es comme un chèque sans fond, personne n'a besoin de toi. Tu pensais que j'hésitais pas parce que j'ai pas dans ton screen. Juste lève la tête, chef et jam comme screen. Puis personne n'a d'être, tu fonds déjà comme ice cream. Tu vas taffer tes filets, tu peux faire des streams. Oh, mauvaise nouvelle.
Alors, être abolitionniste, ça implique quoi en termes concrets? Comme action, comme stratégie ou comme engagement politique?
Pour moi, je commence par la fin, comme engagement politique, pour moi c'est central. Quand je me suis radicalisée, quand je suis devenue militant, au début c'était pas contre les prisons. Je faisais du militantisme féministe, queer, antiraciste, et ça m'a pris quelques années pour comprendre que la prison est centrale dans toutes ces luttes. C'est une façon d'opprimer des gens, des mouvements. Beaucoup de mon travail avec les prisonniers, c'était avec des prisonniers politiques, dans le sens que c'était des prisonniers incarcérés pour leur rôle dans des autres mouvements sociaux. Donc, si on est sérieuse à opposer et à vaincre le patriarcat, le capitalisme, la suprématie blanche, le colonialisme, la transphobie, et là, je peux continuer la liste, toute forme d'oppression, toute structure qui nous opprime, c'est important de ne pas avoir des murs en dedans de nos luttes. Donc, c'est de inclure tout le monde, incluant les prisonniers et les prisonnières dans nos luttes, et de viser l'institution de prison comme une des cibles de toutes ces luttes. Donc, là, c'est une réponse un peu plus théorétique. Pour aller un peu plus dans le concret, quand j'ai mentionné tantôt, il y a comme deux pistes. Il y a la piste abolitionniste en tant que telle, c'est-à-dire pour la lutte anti, la lutte contre les prisons. Il y a aussi le côté plus visionnement des alternatives. Honnêtement dit, moi, je suis moins impliquée dans la partie vision, mais juste, je trouve l'important de le mentionner. Mais en termes de ce qui est le côté plutôt anti, c'est surtout prendre le leadership des prisonniers et prisonnières, donc de soutenir les luttes qui se font en dedans des prisons. Et il y en a plein. Il y a des grèves de faim, des grèves de travail où les prisonniers refusent de travailler. Il y a toutes sortes d'autres actions. Donc, d'être en lien avec ces luttes-là, de prendre un leadership de ces gens. Et ça veut dire des fois de faire des choses qui ont pas juste le destruction complète du prison comme exigence, comme but. Donc des fois il y a des prisonniers, des prisonnières qui réclament, mettons, des conditions un peu moins sévères. Et des fois nous les militantes en dehors des prisons, on peut trouver ça un peu réformiste, mais c'est une lutte très concrète pour améliorer les conditions de vie de nos camarades. Donc, d'être en solidarité avec ces luttes, c'est très important. Et d'y amener un regard abolitionniste. C'est de avoir un dialogue comme quoi ces luttes font partie d'une lutte plus large. Aussi très important concrètement, et de opposer tout ce qui est l'expansion des prisons. Ces jours-ci, il y a beaucoup de surpopulation dans les prisons qui existent. Beaucoup de prisons sont très vieux. Donc, des fois, on peut avoir des revendications pour des nouvelles prisons, des prisons qui se disent meilleures. Et c'est très important de d'opposer à ça, dans le sens que quand on construit des nouvelles prisons, on va les remplir. On voit ça très clairement quand on regarde l'histoire plus ancienne et l'histoire très récente, que c'est super important de toujours opposer ça. Et ça, c'est une des choses que les abolitionnistes font beaucoup. Je sais qu'actuellement à Montréal, il y a une campagne contre une nouvelle prison immigrant qui se fait. Et alors voilà, je pense que je vais terminer là.
Bref, plutôt que d'être une lutte secondaire, militer pour l'abolition des prisons constitue une nécessité en soi pour quiconque souhaite réellement s'attaquer au système capitaliste. Levier de production des inégalités sociales, les prisons oppriment, marginalisent et se basent sur une vision patriarcale et suprémaciste de la société pour punir. Édifier un monde anti-autoritaire passe donc nécessairement par l'abolition des prisons et de manière plus juste du système carcéral qui se reproduit par l'enfermement des personnes stigmatisées comme indésirables. S'il peut sembler à première vue irréaliste de régler le tort commis par les membres d'une communauté sans avoir recours à l'État, comment s'empêcher d'arriver au même constat avec le système carcéral? N'est-il pas fondamentalement irréaliste d'espérer régler tous nos problèmes sociétaux en enfermant toutes les personnes ayant causé du tort? S'il faut lutter activement pour l'abolition et contre l'extension du système carcéral, oublier les personnes y étant actuellement enfermées apparaît cependant comme non souhaitable, et ce, surtout pour les personnes n'ayant jamais été emprisonnées ou n'étant pas en contact avec des personnes emprisonnées. De la réduction des méfaits à l'autonomie radicale des collectivités, sans oublier les formes de justice alternatives comme la justice réparatrice ou transformatrice, de nombreux exemples de communautés refusant d'avoir recours au système punitif pour régler le tort causé se doivent d'inspirer nos trames de résistance collective. Un dernier mot pour vous inviter à la manifestation anticapitaliste du 1er mai à 16h au parc Jarry, coin Saint-Laurent et Gary Carter. La manifestation de cette année a pour thème « Pas de retour à la normale » parce que nous refusons autant le monde pré-pandémique que l'avenir néo-capitaliste qui se dessine. On se voit dans la rue!
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Nous allons entendre en dernier lieu, et non le moindre, des résistants et résistantes inoues qui nous parlent de plusieurs projets de développement colonial qui se passe sur leur territoire et contre lequel ils se battent, ils résistent, comme toujours. Et nous allons vous passer cette information avec beaucoup de force et nous vous appelons à soutenir la résistance inoue. Comme toute la résistance anticapitaliste, anticoloniale ou décoloniale, antipatriarcale, féministe et autres. Il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire contre les différents systèmes d'oppression, beaucoup de luttes à mener. Et notre émission se veut toujours encore en organicité avec la résistance.
Oui, Neil Penwa, membre du collectif Mastasi. Je vais vous lire un communiqué important de la coalition Inuit avec laquelle nous sommes solidaires. Par le présent, nous, membres du peuple Inuit du Pégogami, demandons l'arrêt immédiat du processus référendaire portant sur l'adoption du code foncier. Nous avons de sérieuses préoccupations sur la manière dont le conseil de bande Pégogami Inuit Takwegen a procédé afin de venir un code foncier. Nous remettons en question le processus par lequel le gouvernement fédéral semble mettre un terme à l'application sur les Indiens en imposant son propre processus et en définissant les lois et modalités pour son remplacement, encore une fois, sans la participation des premiers peuples dans la définition d'une transition législative selon leur propre tradition juridique et non en fonction des ententes cadres imposées par le gouvernement fédéraux et provinciaux.
Kwe, Neil Kwekwatseo, membre du collectif Mashkasi. Un processus colonial, une législation fédérale imposée au premier peuple. Nous comprenons que le gouvernement fédéral souhaite déléguer la gestion des terres de réserve aux Premières Nations, ainsi que la gestion de la liste de bandes par l'intermédiaire de codes d'appartenance. Le gouvernement fédéral pousse également les Premières Nations à adopter leur propre code électoral afin de ne plus avoir à gérer le processus électoral et les injustices et conflits perpétrés par la loi sur les Indiens. Bien que le gouvernement fédéral laisse entendre que ces processus font partie d'une étape vers l'autonomie gouvernementale des premiers peuples, la réalité est tout autre. Ces codes et délégations de pouvoir sont une continuité de l'application d'un droit fédéral de gestion déléguée au conseil de bande et défini par le gouvernement fédéral. En ce sens, ce ne sont pas des pouvoirs inhérents issus de ses propres traditions juridiques, de nos propres traditions juridiques, ou bien au contraire. Mais ce sont des pouvoirs délégués par l'État canadien et définis par ces derniers. Les 44 articles de la loi sur les Indiens concernant la gestion des terres sont reconnus au sein du Code foncier en modifiant quelques éléments et en déléguant la gestion de ces derniers au Conseil de bande. De plus, ces Conseils de bande sont des organismes fédéraux au sens de la loi sur les Indiens. Ils ne sont pas des institutions de gouvernance issues des cultures et traditions des premiers peuples. En ce sens, ils rendent des comptes au ministère des Affaires autochtones à Ottawa et non aux membres de ces nations. Ces réalités ont perpétré de profonds problèmes au niveau de la gouvernance et entraîné une gouvernance opaque où les membres ne sont pas invités à participer pleinement aux décisions et aux orientations de leur nation. Nous remarquons également un processus référendaire non démocratique, une crise également au sein de la gouvernance issue de la loi sur les Indiens et remarquée dans la communauté. En ce sens que, pour inciter les gens à aller voter au code, le conseil de bande, l'équipe, a laissé entendre qu'un tel code permettrait de financer des projets de chalets en territoire et également des machineries industrielles pour les membres de la Première Nation. Si le code foncier passe en référendum, la population serait consultée dans l'immédiat et ils auraient cette possibilité de pouvoir hypothéquer leur maison en échange d'un financement, tel qu'annoncé sur le post de Pequagamilnut Stokwaken, public sur leur page Facebook en vidéo pour expliquer le code foncier, le référendum, qui est prévu aujourd'hui, le 3 mai. Donc, dans son vidéo, le conseil de bande explique avoir rejoint 90% des membres de la bande pour les informer du référendum. Vous comprendrez que les nouveaux membres peuvent y voir une occasion de s'installer et de développer sur la communauté. Avec une telle annonce, d'annoncer qu'il y a une possibilité de pouvoir hypothéquer et avoir du financement pour des chalets. Dans de telles annonces, ça ressemble un peu à des pots de vin et des pratiques corruptives qui sont inacceptables, bien que largement répandues dans plusieurs communautés où les membres se font offrir certains avantages en échange de leur soutien à une équipe électorale ou en échange de votes. C'est un questionnement. C'est un processus tellement courant qu'il est même banalisé devant une rencontre Zoom publique de la structure gouvernante étatique établie en place imposée de la loi des Indiens, le Conseil de bande. Alors, nous vous remercions pour cette chronique et c'était pour vous donner des nouvelles du Nitassinan non cédé, Neil Kukwatseo du collectif Mashkasi et
Benoît Selmagan, membre du collectif Mashkasi.
Yamé! Kwekwe Nil Kwekwatseo, membre du collectif Mashkasi, aussi également pour mentionner que les référendums en place sont des moyens coloniaux qui ne sont pas représentatifs des souverainetés ancestrales et des organisations ancestrales qui vivent sur ces territoires depuis des millénaires, qui n'ont jamais été cédés. De sorte que ce n'est pas représentatif d'une collectivité qui fonctionne en consensus de façon circulaire avec les lois de la Terre et de l'univers. Ces référendums, parce qu'ils favorisent plutôt l'extractivisme, parce que si on le passe une fois, même si le nom passe, ils vont resoumettre à la population les changements apportés dans le code foncier, dans l'exemple, si on prend l'exemple actuellement, qui est un référendum qui est en cours aujourd'hui, le 3 mai 2021, à Machtouyats. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que si ça passe pas, ils vont changer, modifier, ils vont le resoumettre à la population. Si ça passe pas une deuxième fois, ils vont encore le resoumettre, ainsi de suite. Donc, c'est inévitable. C'est que ça va passer malgré tout. Donc, c'est un semblant d'une démocratie. Donc, ça n'a aucune légitimité. Et c'est vraiment un système qui est mis en place par, encore une fois, avec l'aide des gouvernements étatiques fédérales qui ont pour rôle l'assimilation et le génocide. C'est là, voilà la vérité. Donc, c'est pourquoi nous nous opposons aujourd'hui au code foncier et l'accord cadre relatif. Et nous remettons en question l'illégitimité du Conseil de mettre en place ce code foncier, de le passer en référendum qui est illégal. Car cet organisme, URSUP, c'est de l'usurpation, c'est le vol d'identité du peuple originel Ilnout, qui a une relation sacrée depuis des millénaires, et des souverainetés ancestrales et des chefferies héréditaires qui ne reconnaissent pas la loi coloniale du Conseil de bande et les chefferies qui représentent la couronne. Donc c'est pour cela aujourd'hui que nous dénonçons cette journée et ce système et que nous ne les reconnaîtrons jamais sur nos territoires non cédés. Mais c'est un escomitna kosnochek, nil kwekwatseo, mashkasi.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Vous entendiez des voix des membres du collectif Mashkasi. Vous pouvez trouver collectif Mashkasi sur Facebook. Vous allez avoir plusieurs informations. La résistance continue de leur bord, la résistance continue des différents bords. La résistance est mondiale, la résistance est internationale, la résistance est nationale, la résistance est locale. La résistance existe partout et dans ce cadre, elle doit être pensée d'une manière globale et c'est ce à quoi nous invite le Hub. Donc, je répète encore une fois, le Hub, cette semaine, le Hub. Donc, le Hub, l'équipe du Hub vous convie à sa semaine, ou plutôt conférence virtuelle, qui aura lieu du 3 au 9 mai prochain, donc aujourd'hui jusqu'au 9. Parmi les panélistes et animatrices et animateurs incroyables, vous aurez notamment la chance d'entendre Skylar Williams parler de la lutte du peuple Haudenosaunee, de regarder une conversation filmée sur l'allyship avec Hélène Gabriel et de participer à plusieurs discussions sur la convergence des luttes. Vous devez vous inscrire sur le site du Hub à lehub.ca, donc https 2 points, 2 barres obliques vers la droite, www.lehub.ca. Barre oblique vers la droite, conférence, CONFERENCE 21. Barre oblique vers la droite, dièse, inscription, dièse, donc, inscription, INSCRIPTION. Sinon, vous allez juste sur le hub.ca et vous allez trouver tout ce que vous voulez. Alors, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à toutes les personnes qui, de proche ou de loin, ont collaboré à la réalisation de ces missions. Et restez à l'écoute de CKUT, CKUT.ca, 90.3 FM, pour toutes nos autres émissions. Alors, merci et à la prochaine.
What's the matter? Is everything all right? That's okay. I've got just the right thing for you. CKUT, 90.3.
Census invitation has arrived in the mail. Your participation will help plan programs and services for your community. Your census, your community, your future. A message from the Government of Canada.
The alert level in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends in private homes and yards are prohibited. Travel between regions should be avoided, and traveling to yellow zones is forbidden. It's forbidden to leave your home between 9:30 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about the other measures in place. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the Gouvernement du Québec.
Okay, I gotta let you go. I have to get my Lake Magog vaccine.
Your Lake Magog vaccine?
Yeah, you know, I'm really looking forward to having the whole family to the cottage for my annual cookout.
Smart move. I'm gonna ask for the Montreal vaccine. I miss those last-minute get-togethers with my buddies.
Nice. Well, I gotta run. I don't think it protects against lateness.
Each vaccination brings us closer to these moments. Follow the vaccination sequence planned for your area and book an appointment at quebec.ca/COVID-vaccine. A message from the Gouvernement du Québec.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM. Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually explicit or coarse language.